Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, c'est le 15e chapitre et le pays vit à l'heure de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'était le 31 août 1939 à 19h au théâtre municipal de Rio de Janeiro, lors du récital durant lequel Marta Angelici avait interprété cette berceuse et toute une série de chants corses qui était une découverte pour les auditeurs. Elle avait aussi interprété en alternance avec Jeannine Michaud des mélodies de Debussy et de Duparc. Le public avait réservé un accueil très chaleureux à ses cantatrices, qui faisait partie de la dizaine de chanteurs engagés pour les opéras français alors à l'affiche de la saison lyrique Carioca de fin juillet à fin septembre, c'est-à-dire Lacmé, Werther, Thaïs, Faust, Louise, les Comtes d'Hoffmann et Carmen. Et sur scène à leur côté, il y avait notamment le ténor québécois Raoul Jobin, la contralto Jeanne Manceau et la soprano Solange Petit-Renaud, tous dirigés par le chef d'orchestre français Jean Morel, qui allait s'établir définitivement aux États-Unis. En cette année 1939, alors qu'en Europe on se prépare à un conflit qui semble inévitable, au Brésil la francophonie est brillamment représentée par de grands artistes. Déjà en mai, l'Aiglon d'Edmond Rostand, monté par une compagnie française, avait triomphé au théâtre du Casino de Copacabana. Rostand, très aimé dans toute l'Amérique latine. Au mois de juin, la soprano Madeleine Gray, qui avait touché le cœur des cariocas, avait donné un superbe récital de mélodies françaises et brésiliennes. D'autre part, lors de la saison lyrique, Jean Morel avait dirigé des ballets français dansés par la compagnie du théâtre municipal, le Boléro, la valse et la pavane pour une infante défunte de Ravel, et masques et bergamasques de Forêt. Au soleil du Brésil, qui songeait alors au grand conflit qui allait éclater en Europe ? Thank you. Hermine Jordan à la tête de l'orchestre de chambre de Lausanne dans l'ouverture de Masques et Bergamasques de Gabriel Fauré. Et voilà qu'en juillet, c'est la Comédie française qui arrive pour la première fois au Brésil. Quel événement! De plus, l'une des comédiennes va faire sensation à Rio, Gisèle Casazzu. Elle venait d'être nommée sociétaire en janvier et le directeur Jean-Louis Vaudoyer lui avait aussitôt demandé de faire partie de la première tournée officielle de la compagnie en Amérique du Sud. À Rio, la troupe est logée à l'hôtel Gloria où les chambres donnent sur la plage et la mer. Le soir de la première, le 11 juillet, les comédiens ont la surprise de trouver chacun un bouquet avec un mot de bienvenue de Josephine Baker qui chante au casino de Copacabana. Ce soir-là, on joue Le Chandelier de Musset et L'École des Maris de Molière, des pièces dans lesquelles Gisèle Casazzu est acclamée par le public et encensée par la presse. Suivent 15 soirées jusqu'au 21 juillet et le grand succès obtenu notamment par Britannicus et Le Jeu de l'amour et du hasard dans les 11 titres représentés. Les salles sont combles, écrit Gisèle dans ses mémoires, et le succès immense. J'ai passé une journée dans l'île de Paqueta, un paradis qui croule sous les bougainvilliers. Un jeune attaché d'ambassade est même parvenu à faire inviter quelques comédiens à une soirée de macumba, ce qui était exceptionnel. D'après la description qu'en fait Gisèle, fort peu convaincu au demeurant par cette étrange cérémonie, ce devait être dans une clairière de la forêt de Tijuca. Puis la troupe part à Buenos Aires. Sur le chemin du retour à l'escale de Rio le 20 août, l'ambassadeur de France venu saluer les acteurs est très pessimiste. Il leur apprend que la guerre est imminente. Sur le paquebot, tout le monde est inquiet, même si Mistinguette, embarqué aussi à Rio avec sa troupe, aimerait conjurer le sort en faisant la fête. Un après-midi, raconte Gisèle Casazzu, alors que nous sommes installés dans le bar à l'arrière du bateau, la Marseillaise éclate soudain au haut-parleur. Tout le monde se lève. Et les larmes coulent en entendant le communiqué. Les hostilités sont ouvertes entre la France et l'Allemagne. La mort de Mérope, au dernier acte de Persée de Jean-Baptiste Lully, chanté par Solange Petit-Renaud, une soprano française trop oubliée, qui à la fin des années 1930 chante beaucoup en Argentine et au Brésil, où elle réside pendant la guerre. En 1939, le compositeur Villa-Lobos est lui tout entier engagé dans son programme de chant choral à travers le pays, ce qui ne l'empêche pas de se tenir au courant des événements qui se déroulent en Europe, car la France est toujours aussi chère à son cœur. Cette année-là, il décide de composer une fresque chorale et symphonique pour des centaines de choristes amateurs, des enfants et des adultes mêlés à un chœur professionnel. Pour cela, il choisit des thèmes faciles sur des mots en langue indienne Nyingatu, qui résonnent comme des onomatopées et qui racontent la légende de Mandu Sarara. Un indien toupi abandonne ses enfants dans la forêt afin que sa fille se marie avec le dieu de la danse, Mandu Sarara. Mais les enfants se perdent et l'ogre Kurupira menace de les dévorer. Après maintes péripéties dignes de Hänsel et Gretel, ils parviennent à s'échapper et à retrouver le chemin du village où Mandu Sarara les attend. L'œuvre s'achève par une somptueuse fête en l'honneur de la danse et de la musique. La chorale d'enfants, le chœur et l'orchestre symphonique de São Paulo, sous la direction de Isaac Karapchewski, dans le Mando Sarara de Aitor Villa-Lormos. En 1939, le président Vargas veut doter le Brésil de l'industrie de base qui lui fait défaut. Il sait qu'il a besoin pour cela des États-Unis, bien plus que de l'Allemagne. C'est ainsi qu'il envisage avec eux un important accord commercial le 9 mars de cette année, en échange d'un prêt important et de l'installation de bases navales sur le littoral. Ce sont là les prémices de ce que sera la politique de « boa vizinhança », de « bon voisinage », comme on l'appellera. En mai, c'est la foire internationale de New York, et le Brésil est magnifiquement représenté. Le gouvernement a fait appel aux architectes Lúcio Costa et Oscar Niemeyer pour concevoir le pavillon brésilien qui abrite une exposition d'œuvres du peintre Cândido Portinari, qui a fait lui aussi le voyage. Le chef d'orchestre Walter Burlemarx, qui vit alors à New York, est chargé d'y organiser deux concerts, les 4 et 9 mai, consacrés à des œuvres de compositeurs brésiliens. C'est à cette occasion qu'est créée à New York, peu après Rio de Janeiro, la célèbre cantilène des Baquianas Brasileiras numéro 5, interprétée par la soprano Bidu Sayão, qui commence alors une brillante carrière au Metropolitan Opera. La lune est apparue dans l'infini du ciel et son reflet dans la mer éveille en nous une saudade qui rit et qui pleure à la fois. Oh, La soprano brésilienne Bidu Sayão, un ensemble de violoncelles et de contrebasses sous la direction de Aitor Villa-Lobos, avec le violoncelle solo du grand Leonard Rose, enregistré à New York le 26 janvier 1945 dans la cantilène des Bacanas Brasileiras numéro 5 de Aitor Villa-Lobos. En 1939, Darcy Vargas, l'épouse du président, s'investit beaucoup dans des soirées caritatives pour récolter des fonds, surtout pour les enfants nécessiteux. Elle anticipe ainsi la création du département de la presse et de la propagande qui sera créé en décembre. Et cette fois, elle veut frapper fort. Elle décide de monter en juillet et en août une revue à grand spectacle pour laquelle elle parvient à réunir 200 artistes et 80 musiciens amateurs et professionnels dans une suite de tableaux qui célèbrent le Brésil. L'un des premiers évoque le XIXe siècle dans des costumes somptueux, inspirés des dessins du voyage pittoresque et historique au Brésil, réalisé par le peintre français Jean de Bray lors de son séjour dans ce pays entre 1816 et 1831. Puis c'est un tableau haut en couleur qui se déroule à Salvador de Bahia, pour lequel elle fait appel au compositeur Dorival Caymmi, natif de cette ville. Le dernier tableau s'intitule « Aquarelle du Brésil ». Et c'est l'auteur de samba le plus réputé, Ari Barroso, qui a composé la musique, en collaboration avec Radames Niatali, qui dirige l'orchestre en fosse. Le titre du spectacle, « Jujus et Balangandans », qu'on peut traduire par « Strass, Freluche et Paillette ». La chanson d'Ari Barroso, « Aquarela do Brasil », connaît un tel succès qu'elle est choisie pour représenter le Brésil à la Foire internationale de New York l'année suivante et elle devient un véritable tube planétaire.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risonet, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio e faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil,
Brasil,
pra mim,
pra mim.
Passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, Brasil,
Brasil,
deixa cantar de novo o trovador, a merengola luz da toda a canção do meu amor. Quero ver a Satana caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado, Brasil,
Brasil.
Série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Francisco Alves était accompagné par l'orchestre de Radames Niatali, qui s'est vraiment fait un nom dans la musique populaire. Excellent arrangeur, orchestrateur, chef d'orchestre, il imagine même de nouveaux accompagnements pour les marches du carnaval et il dirige souvent dans les fosses des théâtres de revues musicales. Parallèlement, il compose aussi pour le concert et le 12 octobre 1939, plusieurs de ses œuvres sont jouées au théâtre municipal. Cette année-là, il écrit un cycle de 10 valses pour le piano, dont certaines rappellent celles d'Emmanuel Chabrier. La valse numéro 10 de Radamés Niatali, au piano Miguel Provence. En 1939, dans le domaine économique, les États-Unis sont sur le point de supplanter l'Allemagne au Brésil, aux grandes dames des nazis et des germanophiles brésiliens. Et Carmen Miranda sera bientôt là-bas, la meilleure ambassadrice de son pays. Elle est revenue de 4 séjours en Argentine et en Uruguay, où elle a remporté ses premiers succès internationaux. En 1938, elle fait sensation dans un film musical en chantant pour la première fois dans ce costume blanc de Baianese qui l'a rendu si célèbre aux États-Unis. Le titre « O que é que a Baiana tem ?» Qu'est-ce qu'elle a donc la Baianese ? Qu'elle enregistre avec le compositeur Dorival Caymmi qui fait là un début remarqué et que Josephine Baker chantera dans le monde entier. Ce qui distingue la Baianese, en plus de son costume, de ses bijoux, de ses balangandans, c'est sa grâce à nul autre pareil, surtout quand elle va au pèlerinage de Notre Seigneur du Bon Fin.
O que é que a Baiana tem?
O que é que a Baiana tem?
Tem torso de seda, tem.
Tem.
Tem brinco de ouro, tem.
Tem.
Corrente de ouro, tem.
Tem.
Tem pano da costa, tem.
Tem.
Tem pata rendada, tem.
Tem.
Pulseira de ouro, tem.
Tem.
Tem saia engomada, tem.
Tem.
Tem sandália enfeitada, tem.
Tem.
E tem graça como ninguém.
O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem?
Como ela requebra bem.
O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem?
Quando você se requebrar, caia por cima de mim. Caia por cima de mim. Caia por cima de mim.
O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem?
Mas o que é que a Baiana tem?
O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem?
O que é que a baiana tem?
Tem torso de seda, tem.
Tem?
Tem brinco de ouro, tem.
Ah!
Corrente de ouro, tem.
Que bom!
Tem pano da costa, tem.
Tem.
Tem bata rendada, tem.
E que mais?
Pulseira de ouro, tem.
Tem.
Tem saia engomada, tem.
Tem.
Sandália enfeitada, tem.
Só vai no bom quem tem.
O que é que a baiana tem?
Só vai no bosque quem tem.
O que é que a baiana tem?
O rosário de ouro, uma bolotazinha. Que não tem balangandãs, não vai no bonde. O que não tem balangandãs, não vai no bonde.
Oi, não vai no bonde.
Après Carmen Miranda en Argentine et en Uruguay, en 1938, c'est toute l'Amérique latine qui accueille enfin de nombreux artistes populaires brésiliens. Et la musique de concert n'est pas en reste. Cette année-là, le compositeur Lourenço Fernandes, qui dirige le Conservatoire National de Musique qu'il vient de fonder à Rio, est mandaté par Getúlio Vargas pour faire une tournée comme chef d'orchestre et conférencier en Uruguay, en Argentine, au Chili, au Pérou, en Colombie, à Cuba et à Panama. Et il crée là des œuvres de Villa-Lobos, Nepomuceno et Enrique Oswald, et aussi ses propres œuvres. La tournée s'achève en octobre à Panama City, juste après son succès, au Grand Théâtre Auditorium de la Havane, devant près de 2000 personnes. Avant son départ, il avait composé sa deuxième et sa troisième suite brésilienne pour le piano. Cristina Ortiz interprétait un prélude et une danse du Catelete de la deuxième suite brésilienne de Lourenço Fernandes. Dans le Brésil de Getúlio Vargas, la population de l'intérieur du pays, trop absente du paysage culturel, est remise à l'honneur. Et la chanteuse Dalva de Oliveira est l'exemple même de la réussite d'une jeune fille de cet arrière-pays trop oublié. Née dans une famille très modeste, elle se fait remarquer par son talent et sa voix exceptionnelle, et c'est la radio qui la fait venir à la capitale. En 1938, elle s'est mariée avec le compositeur et chanteur populaire Heriberto Martins, qui formait alors le duo noir et blanc avec le chanteur afro-brésilien Nilo Chagas. Avec Dalva de Oliveira, il crée le Trio de Ouro, le trio en or, qui fera les beaux soirs du casino Durca à Rio. Comme Heriberto était déjà marié et que le divorce n'était pas encore possible, ils ont célébré leur union selon le rite Umbanda afro-brésilien une nuit sur la plage, tous vêtus de blanc. Malheureusement, leur relation sera très tourmentée. La frivolité et le machisme de Heriberto les conduira à se séparer en 1947. Dalva connaît alors une immense popularité et les attaques ignobles d'Heriberto, dont elle sera victime, ne feront qu'augmenter l'amour des Brésiliens à son égard. D'autant que par son combat, elle est devenue une ardente militante pour les droits de la femme. Elle chante ici avec le Trio de Ouro l'un de leurs très beaux succès en 1939, Alvorada, l'aube dans la campagne où sa voix de soprano fait merveille.
Caboclo que estava dormindo acordou
E depois choveu
A cabocla sua companheira e cantou
Uma canção com arreio
Que falava de grande amor
Uma canção com a dor
Que falava de um grande amor
Claro
mesmo que o dia
Nele se
enterrou Nas flores da poesia
Assim dizia o caboclo
Na sua linda canção
Ao verso de pouco a pouco
No sono divino clarão Quando o sol no horizonte azulado despontou Quando o sol no horizonte azulado despontou
C'est aussi au casino de Urca que Carmen Miranda débute en 1939 avec l'orchestre Ubando da Lua, les copains, la bande de la lune. Au mois de février, dans la salle, il y a un célèbre producteur américain, Lee Schubert, qui possède de nombreux théâtres à Broadway. Enthousiasmé, il lui propose un contrat pour les États-Unis et obtient même un soutien financier du gouvernement de Getúlio Vargas. C'est ainsi que Carmen se retrouve un beau matin avec son orchestre Bando da Lua sur le paquebot uruguayen en partance pour New York. Il faut imaginer les yeux écarquillés des musiciens et de Carmen à leur arrivée à Manhattan. Et puis Lee Schubert a fait les choses en grand. Il a logé Carmen Miranda au Saint Moritz face à Central Park. Puis il leur fait connaître le célèbre Cotton Club où jouait Cab Calloway. Et les fait engager illico dans un show de Broadway intitulé Streets of Paris, les rues de Paris, dans lequel Carmen Miranda n'apparaît qu'à la fin du premier acte et dans le numéro final. Mais quel succès! Elle conquiert le public new-yorkais en leur chantant en portugais et en anglais le fameux South American Way, ou Comment vivre et aimer à la manière sud-américaine. Une chanson que le film Down Argentine Way, sous le ciel d'Argentine, rendra encore plus populaire en 1940. Le show a débuté en mai à Boston, puis en juin à Broadway, et tient l'affiche jusqu'en février 1940, date à laquelle le spectacle part en tournée jusqu'en mai dans les grandes villes de la côte Est. L'action se passe à Paris, et débute dans les coulisses du théâtre Marigny. L'œuvre est en quelque sorte un spectacle dans le spectacle, notamment quand apparaît Carmen Miranda avec le bandeau d'Alua pour célébrer dans ce Paris de fantaisie le mode de vie latino-américain, avec à ses côtés Jean Sablon, qui réside alors à New York. Le succès est tel que dans le public, on voit même des célébrités d'Hollywood, comme Gloria Swanson, Douglas Fairbanks et Ava Gardner, venues applaudir à tout rompre Carmen Miranda.
Miss Carmen Miranda and her boys from Brazil.
Ai, 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa americano. Ai, 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 ai. E o que traz no seu tabuleiro vem de praia, oi, oi, vem de praia, ai, ai, em salsa American Way. E vem de vatapa, e vem de caruru, e vem de mongonza, e vem de umbu. E seu tabuleiro tem de tudo que convém, mas só lhe falta, ai, ai, belenguendez, ai, 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 ai. É o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa American Way. Ai, ai.
Ai, 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 ai,
em salsa americano.
Pendant ce temps, à Rio de Janeiro, en septembre, la saison lyrique a commencé avec la diva brésilienne Bidu Sayão dans Manon et la Traviata. D'autre part, l'opéra de Carlos Gomes, L'Esclave, créé au Brésil en 1889, connaît un succès retentissant. Le spectacle commémore en plus le jour anniversaire de l'indépendance du pays. C'est un des opéras de Carlos Gomes les plus émouvants. Il se déroule à la fin du XVIe siècle. Face à l'amour que se déclare Hilar, la jeune esclave indienne, et Américo, fils du comte portugais Rodrigo, ce dernier envoie le jeune homme combattre au sein de l'armée les Indiens de la baie de Guanabara. Ces derniers le capturent et le condamnent à mort. Mais le jeune chef indien Ibéré, lui aussi amoureux de la jeune Hilara, décide par grandeur d'âme de le libérer et lui enjoint de fuir avec Hilara et de l'épouser. Ibéré fait alors face à la tribu en déclarant que seul l'amour triomphera et il se donne la mort. Au premier acte, l'air d'Hilara, alors qu'on la sépare de celui qu'elle aime, est particulièrement déchirant. La soprano Ida Mikolis, l'orchestre symphonique national dirigé par Nino Stico, dans l'air d'Ilara de Lo Schiavo, l'esclave de Carlos Gomez. En 1939, le gouvernement de Vargas reconnaît officiellement la culture populaire comme l'expression authentique de l'identité brésilienne. À partir de cette date, un jour entier par an lui est consacré. Par contre, plus question d'accepter le relâchement dans les danses du carnaval. Et interdiction d'encenser les malandros, ces sympathiques voyous séducteurs célébrés dans les chansons et surtout dans les sambas. Les défilés du carnaval sont donc dans la ligne de mire. De son côté, Villa-Lobos réfléchit depuis un bon moment à redonner ses lettres de noblesse à la samba. Il collabore alors avec Zé Espinguela, grand sambiste qui avait créé la célèbre école de la Mangueira. Tous deux veulent revenir aux véritables sources du carnaval. Ce serait merveilleux, dit Villa-Lobos, de reconstituer les anciens cucumbis, ces rassemblements où noirs et métis ornés de peignes et de colliers de verroterie multicolores, de coraux, de dents d'animaux, entonnaient des chants dans des langues mystérieuses où se mêlaient des mots inventés et des accents indiens et africains. Tout cela avec leurs prêtres et leurs monarques qui arboraient des cobras et des lézards. Ce retour aux sources se comprend mieux quand on songe que Villa-Lobos revient ces années-là aux racines de la musique brésilienne, aux choros notamment, tout en s'inspirant de Jean-Sébastien Bach, alors qu'il vient d'achever ses Bachianas numéro 3 pour piano et orchestre, dont l'accent est plus dramatique. Elles seront créées aux États-Unis en 1947.
Thank you.
Le pianiste Nelson Freire, avec l'Orchestre symphonique du Brésil dirigé par Isaac Karapchevski, dans le deuxième mouvement des Baquianas Brasileiras numéro 3 de Heitor Villa-Lobos. Getúlio Vargas fonde bientôt au Brésil le département de la presse et de la propagande, qui est chargé notamment de veiller à ce que les sambas et les chansons en général arrêtent de vanter les hauts faits des voyous, des malandros, car il s'agit à présent d'exalter la patrie, la famille et le travail. Les paroles des sambas sont passées au crible de la censure et doivent désormais véhiculer de préférence des thèmes éducatifs et moralisateurs. Il faut redonner au carnaval son lustre d'antan en le dépouillant du caractère trop licencieux de certains chars et de cordons, ces groupes qui défilaient encadrés de cordons de sécurité. Mais grâce à Villa-Lobos, on aura sans doute évité le pire, c'est-à-dire une version trop aseptisée du carnaval qui a toujours su rester frondeur et défier les censures. Et voici que l'histoire se répète. Quand le 1er mars 2019, les écoles de samba, c'est surtout la légendaire Estação Primeira da Mangueira, ont choisi de défier le nouveau président du Brésil, de condamner ses propos racistes et sexistes, en mettant à l'honneur les femmes, les minorités, les afro-brésiliens, les indiens, et en rendant hommage à la militante noire Marielle Franco, sauvagement assassinée en 2018.
O samba da minha terra deixa gente mole, quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole, o samba da minha terra deixa gente mole. Quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. Eu nasci com samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. Eu nasci com samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole, o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. O samba da minha terra deixa a gente mole.
Que mar. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. E o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Eu nasci com samba, no samba me criei. E do danado do samba nunca me separei. Eu nasci com samba, no samba me criei. E do danado do samba eu nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. E o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Eu nasci com samba, no samba me criei. E do danado do samba nunca me separei. Eu nasci com samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. E o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole, 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 todo mundo bole.
Celui qui n'aime pas la samba de mon pays a vraiment un problème, que ce soit à la tête ou alors dans les pieds. Une samba de Dorival Caymmi pour se dire au revoir aujourd'hui et se donner rendez-vous dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet, à la technique Pierre Monteil, attaché de production Nelly Portal. On peut bien sûr écouter ou réécouter cette émission en podcast.